France Inter, le 18-20.
Changement de programme ce soir, évidemment, sur France Inter en raison du décès d'Agnès Varda. Jusqu'à 19h, nous allons rendre hommage à cette femme exceptionnelle qui s'en est allée à l'âge de 90 ans. Cinéaste, photographe, documentariste et j'en passe, une artiste majuscule qui aura marqué l'histoire du cinéma. Agnès Varda, qui a plus de 80 ans, se lançait dans de nouvelles aventures artistiques. Il faut dire que 60 ans plus tôt, elle donnait le coup d'envoi de la nouvelle vague. Avec nous pour évoquer cette femme éternellement joyeuse et curieuse, Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque. Bonsoir à vous Frédéric Bonneau.
Bonsoir.
Nos deux spécialistes cinéma sur France Inter, Eva Bétan et Laurent Delmas. Bonsoir à tous les deux. Nous serons également en ligne avec Yolande Moreau, qui avait fait ses débuts au grand écran avec Agnès Varda. Nous appellerons aussi Gilles Jacob, l'ancien président du Festival de Cannes, notre confrère du journal Ouest France, Yves Aumont, à Nantes. Nous serons en ligne également avec Macha Makaïef, qui consacrera une exposition en partie à Agnès Varda l'été prochain à Avignon. Et puis bien sûr, on entendra des extraits des films d'Agnès Varda.
Claire Servageant, une semaine en France.
Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres. Et des plages, et toutes sortes de gens. Second marker. Je les ai filmés, ou pas, compris ou pas, admirés. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demy, la peinture, la famille, et les puzzles.
Un extrait des plages d'Agnès. Quand on l'entend, ben, tout est dit à travers la voix d'Agnès Varda, Frédéric Bonneau.
Oui, enfin, ce qui n'est pas tout à fait...
Je crois qu'on a un petit problème de micro, Frédéric Bonneau.
Oui, je vais
peut-être vous inviter à changer de place. Et je me tourne en attendant vers Eva Bétan. On l'entend dans cet extrait, elle dit « Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres ». C'était ça le cinéma d'Agnès Varda?
C'est-à-dire que c'était dans sa nature. Et sa nature est entrée dans le cinéma, puisque tout se mêlait. Ce qu'elle était dans les films. Sa curiosité faisait qu'elle s'intéressait au sujet. Donc son intérêt pour les autres n'était jamais en surplomb. C'est une femme qui disait, c'était peut-être probablement un des films les plus difficiles à faire, les glaneurs et la glaneuse, aller filmer et être à la bonne distance, être respectueux de gens qui, pour certains, vont chercher de la nourriture dans les poubelles. Eh bien, elle disait, moi, je vais pas leur poser les questions, je vais pas ne pas oser les regarder, ce qui les met mal à l'aise. Elle leur disait, vous avez raison, c'est incroyable ce que les gens jettent. Et la discussion commençait comme ça. Elle discutait, elle interviewait pas.
Frédéric Bonneau, vous avez changé de place. Je pense que ça va aller mieux. Oui, c'est ça, on confirme. C'est vrai qu'on utilise souvent des superlatifs quand des artistes disparaissent, mais là, franchement, c'était une cinéaste majeure, Agnès Varda, on peut le dire.
Oui, mais Eva a raison. C'est pas tellement la peine d'utiliser des superlatifs parce qu'en fait, elle fait partie de ces cinéastes assez rares finalement qui ont réussi non pas à changer le monde, parce que changer le monde c'est délicat, mais à changer notre regard sur le monde. Et ça, c'est très important. Et Les Glaneurs et la Glaneuse, ça a été un film sûrement très important parce qu'en cette fin des années 90, il y a une cinéaste qui elle-même se considérait comme une vieille dame, donc un peu dans sa décrépitude de l'âge. Hein. Les glaneurs, la glaneuse, c'est aussi sur Agnès qui perd ses cheveux, dont les mains commencent à être tachées, et qui tout d'un coup regarde dans les marchés parisiens ou un peu partout en France ce qu'on ne voit pas. Ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ceux, pour prendre le titre d'un film récent, qui sont invisibles. Et donc, évidemment, ce qui est très fort, et les gens ne s'y sont pas trompés, c'est qu'en regardant ces invisibles, elle a changé notre regard. C'est-à-dire qu'on s'est mis à les regarder, on s'est mis à les voir, on s'est mis à regarder les fins des marchés comme on ne les regardait pas. Et en fait, notre regard a été totalement transformé. Ça, c'est la force du grand art, c'est la force du grand cinéma. Et ça explique aussi... les courants d'amour, d'empathie, de bienveillance qui allaient vers Agnès depuis 20 ans, depuis ce film, parce qu'évidemment les gens ressentaient très fort que ça ne pouvait pas être du chiqué, c'est-à-dire que cette bienveillance et cette empathie, ils la ressentaient et ils lui rendaient bien.
Laurent Delmas.
Oui, pour abonder dans ce que dit Frédéric, c'est qu'elle était maternelle et maternante pour nous cinéphiles et pour nous spectateurs, avec tout ce que ça veut dire effectivement d'empathique, de protecteur. Parfois aussi, elle savait nous remettre à notre place. Je dis nous globalement, les journalistes et les cinéphiles et les spectateurs. Moi, je me souviens par exemple cet été, je lui ai dit que l'un de ses films, L'une chante, l'autre pas, était résolument moderne. Et là, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit non, il est contemporain. Et elle avait, le pire, c'est qu'elle avait raison. C'est-à-dire que ce petit bout de règle qu'elle m'a donné sur les doigts, elle avait parfaitement raison. Les deux adjectifs ne se valent pas, ils ne veulent pas dire la même chose. Et son cinéma est résolument contemporain et c'est pour ça aussi qu'il nous parle tant. Et ce rapport maternel qu'on avait avec elle et qu'elle avait avec nous, je crois que c'est ce qui fait que ce soir, on est clairement orphelin.
Alors si je vous entends bien tous les trois, c'est quelqu'un qui aimait la vraie vie, les vrais gens. D'où ça venait, ça, Eva Bettan? C'est son histoire qui explique ça?
C'est beaucoup plus complexe comme ça. Elle aime que ça. Elle aime les gens. Elle part souvent d'une émotion ou d'une idée pour faire un film. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très pointu dans sa manière de faire du cinéma, qui est très exigeante. Quand elle fait Saint-Ouen-Illois, elle fait le portrait d'une routarde, d'une SDF. Mais comment elle le fait? Pas en sociologue. Elle le fait en inventant une forme cinématographique, elle est racontée par les gens qui l'ont croisée, qui impose une contrainte, une manière de faire des films. Donc vous avez les deux. Il n'y a aucune démagogie dans sa manière de faire. Il n'y a rien. C'est un intérêt, comme l'intérêt qu'elle peut porter une toile de Picasso, qu'elle va mettre dans un film où elle parle d'elle parce qu'elle va trouver que ce chagrin sur la toile est plus intéressant pour dire ce que c'est qu'une rupture ou un truc. Eh bien, elle va porter le même intérêt à un être humain. Et elle n'a pas l'idée de celui-là est important, celui-là l'est pas. Elle regarde pareil. Et en même temps, vous prenez chacun de ses films, vous pouvez le disséquer dans un cours de cinéma. C'est ça qui est formidable. Et en même temps, elle n'oublie pas que le cinéma, c'est un spectacle. Donc vous mettez tout ça bout à bout, ça donne une forme d'humanisme très particulier. Et elle avait une haute idée des gens en face, de ceux qu'elle filme et des spectateurs.
Frédéric Bonneau.
Aucune démagogie, bien sûr, aucune mièvrerie. Non. Aucune mièvrerie. Agnès a traité aussi des sujets comme le tourment amoureux, comme la séparation, comme l'absence. Le bonheur, par exemple, est un film d'une cruauté implacable, enfin, sur qu'est-ce que peut faire un être quand on lui en préfère un autre, et elle connaissait ça aussi de près. Mais ce qui reste peut-être le plus impressionnant dans son parcours, c'est quand même quelqu'un qui s'est autorisé. Elle s'est autorisée elle-même à devenir la photographe du TNP de Jean Villard, et donc la photographe officielle de Gérard Philippe, une des plus grandes aventures artistiques françaises du XXe siècle. Ensuite, elle s'est autorisée à faire un premier film, alors qu'elle avait même pas fait de court-métrage, La Pointe Courte, bien avant La Nouvelle Vague, il faut quand même le dire. Alors qu'elle était une femme, c'est-à-dire que la difficulté était double, était triple. À l'époque, faire un long métrage, ça voulait dire avoir fait l'IDEC, avoir été assistant, avoir eu une carte professionnelle. Agnès a fait un long métrage, La Pointe Courte, avec Philippe Noiret et Sylvia Montfort, toute seule, littéralement toute seule, parce qu'elle se l'est autorisée. Et il y a eu plusieurs réinventions comme ça de son art et de son cinéma. Et la dernière des réinventions, là où quand même on était tous absolument stupéfaits, c'est quand la situation économique du cinéma est quand même devenue un peu compliquée pour elle. Parce qu'elle avait son public, elle avait du public, mais elle n'a jamais eu à son grand regret ce qu'on appelle le grand public. Et donc, faire des fictions devenait compliqué. Eh bien, elle est devenue une jeune artiste plasticienne.
Et on y reviendra.
Voilà, de 80 ans, et elle a encore changé son fusil d'épaule, et elle a réussi à être reconnue comme telle par des gens comme Annette Messager, comme Boltanski, et il y a eu encore un déplacement d'Agnès à travers là.
On va en reparler, mais on va s'arrêter quand même d'abord sur le cinéma. On va entendre, vous en parliez, Eva Bettan, un extrait de Saint-Ouen-Illois pour commencer.
Tiens, prends 100 balles et casse-toi.
Oh, 100 balles pour me tirer. C'est dommage, la vieille m'avait la bonne, mais la bonne veut pas.
Allez. J'ai pris en stop une routarde, une vagabonde, quoi. Tu n'as pas idée comme elle puait. Quand elle est montée dans la voiture, ça m'a suffoquée.
Moi, c'est Simone, mais on dit Mona.
Voilà pour cet extrait. Eva Bettan, on entend qui alors?
On entend Sandrine Bonnaire, qui est toute jeune, qui a 17 ans et demi, et qu'elle filme d'une manière extraordinaire.
Et on entend aussi Yolande Moreau. Je vous dis ça parce que figurez-vous qu'elle est en ligne.
Ah bah très bien.
Ben oui, Yolande Moreau. Bonsoir à vous, Yolande Moreau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir sur France Inter. Peut-être un mot d'abord de votre réaction quand vous avez appris le décès d'Agnès Varda aujourd'hui.
Écoutez, c'est évidemment beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de souvenirs, et puis c'est une immense petite madame, vraiment une très grande petite dame. Voilà, je trouve qu'elle a innové beaucoup pour les femmes, elle était pionnière, et puis je crois que c'est la plus anti-conventionnelle avec qui j'ai travaillé.
C'est avec elle que vous aviez commencé, je crois, en 84, dans un court-métrage, Yolande Moreau, c'est ça ?
Cette pièce, celle de ma cuisine, qui a été reprise après un peu des extraits dans les plages. Et puis elle m'a rappelé pour Saint-Ouen-et-Loire, voilà, c'était mon premier film aussi.
C'était quoi la grande qualité d'Agnès Varda sur un tournage, Yolande Moreau ?
Alors, l'invention, au jour le jour, je trouve, je voyais passer un train rouge, il fallait qu'on mette le train rouge dans le film. Des fois, elle écrivait des dialogues qui lui venaient à l'esprit sur le capot d'une bagnole juste avant de tourner. Je trouve qu'elle avait énormément d'inventions sur le moment, tout en n'oubliant pas son fil de directeur. Et en tout cas, moi, je sais que quand j'ai vu Les Plages, qui est un des films qui m'a le plus ému de ces dernières années, moi, j'étais moi-même en écriture et je me dis, mais qu'est-ce qui te prend l'envie d'écrire? Je trouve qu'elle avait tellement de talent pour raconter le siècle dans lequel elle a vécu, avec humour, poésie, tendresse, déguisé en patate, enfin, tout est permis. Et donc là, je trouve... c'est ce qu'on attend du cinéma et qui est trop rare, trop rare.
C'était une forme de modèle pour vous ?
En tout cas, je trouve qu'elle a ouvert la porte à pas mal de femmes. Et puis, j'ose pas dire modèle, moi, parce que justement, quand j'ai vu Les Plages, je me dis, mais ferme ta gueule. c'est tellement extraordinaire ce qu'elle arrive à faire. Avec une manière très artisanale qu'elle revendiquait de travailler, mais où tout est archi travaillé, contrôlé. Je pense à ces petites cabanes c'est un peu en bordel ce que je vous dis, mais les cabanes qu'elle a faites avec des restants de pellicules d'un film. Voilà, je trouve chaque fois tout est objet transformé et avec énormément de poésie.
Yolande Moreau, il y a Eva Bétan qui a une question à vous poser.
Oui, le Saint-Ouen-et-Loire, nous on a vu donc le film terminé. Ça a été un tournage, je crois, très particulier parce qu'elle avait tout un dispositif et en même temps, elle laissait la place à ce qui pouvait advenir. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter de comment se tourne un film pareil ?
Voilà, moi c'était mon premier film, donc je découvrais à peu près tout. Et ce qui était extraordinaire aussi, c'est que il y a plein de gens qui restent très liés de ce film, comme si c'était un film important. Enfin, j'étais en train de découvrir, donc je pouvais pas comparer, mais il me reste plein de souvenirs. Voilà, c'est là où je vous parle du train rouge, je vous parle des fois où elle changeait d'idée, on allait ailleurs. C'était assez sauvage, mais...
Et qu'est-ce qu'elle vous disait ? Parce que pour que les acteurs sont toujours justes chez elle, qu'est-ce qu'elle vous disait pour que vous soyez à la bonne distance d'une routarde qui échappe à tout le monde, qu'on ne peut pas réduire à une définition, dont elle ne fait pas de sociologie, elle ne vous dit pas son père l'a abandonné, il lui est arrivé ceci, rien. Qu'est-ce qu'elle vous dit pour que vous soyez de plein pied ?
On n'est pas dans la psychologie, non. Mais je crois qu'elle s'intéresse aux gens, parce que ce film, aussi, moi, je me rappelle la première réaction quand je l'ai vue, il y avait une fille qui disait « Moi aussi, j'aimerais bien être libre. » Ça sonnait très étrange. Et moi, des années après, c'est ça qui me reste aussi de ce film, où le saisonnier qui parle de ses bouteilles d'huile, que chacun a sa bouteille d'huile. Il me reste plein de choses comme ça, de personnes qu'elle a rencontrées qui sont dans le film.
Frédéric Bonneau, il y a une petite question pour vous, Yolande Moreau.
Non, mais quand j'entends parler Yolande Moreau, je me dis qu'effectivement, l'écriture d'Agnès, parce que c'était une écriture cinématographique qui était très singulière, l'empathie ne suffit jamais en art, il faut encore avoir cette écriture. Et l'écriture d'Agnès était une écriture du mélange, c'est-à-dire qu'elle possédait au plus haut point l'art du mélange et même de l'association de pensée. Mmh. Elle disait souvent, mon cinéma, c'est... queue de cheval, ça partait d'un mot pour arriver à un autre. Et ce qui est très frappant dans Saint-Antoine-Illois, par exemple, c'est que bien sûr, il y a cette routarde, cette vagabonde, mais il faut voir comment c'est écrit, donc comment c'est filmé. C'est-à-dire que le film est vraiment construit en travelling. Elle a conçu son film comme une écriture cinématographique où les travelling se répondent, selon le parcours de Mona, donc, qui est interprété par Sandrine Bonnaire, comme dans l'un de ses plus grands films, qui est Cléo de 5 à 7, qui est vraiment un des plus grands films du monde. Enfin, il faut le dire, si on voit un film d'Agnès Varda, si on ne connaît pas, il faut voir Cléo de 5 à 7. Et elle avait lâché cette femme merveilleusement belle qui était Corinne Marchand dans Les rues de Paris. Et tout d'un coup, les rues de Paris, qui avaient l'air banales, anodines, comme ça, devenaient chargées de mort, de mystère et de danger, parce que c'était aussi les rues de Paris de 1961-62, donc celle de la guerre d'Algérie. Et donc ce mélange...
Et elle rencontre un soldat
qui est en permission et qui va revenir en Algérie.
Et tout d'un coup, elle le regarde alors qu'on se dit que cette femme plutôt sophistiquée n'aurait pas parlé à ce soldat.
Exactement.
Et ça, c'est ce qu'elle met dans un film.
Et Agnès,
c'est un des visages de son humanité.
Et Agnès disait, ce qui est extraordinaire...
Agnès disait...
Elle a accepté de se faire draguer par ce petit piou-piou, alors que normalement elle n'aurait pas dû accepter, parce qu'elle vient d'apprendre elle-même qu'elle est malade, et que donc elle est elle-même en état de vulnérabilité.
Yolande. On vous a pas oublié.
Non.
Vous êtes d'accord avec tout ça?
J'écoute avec beaucoup d'intérêt, oui.
Vous êtes d'accord avec tout ça?
Oui, bien sûr, oui.
Quelle image vous garderez d'elle?
Une fantaisie incroyable, une curiosité, un bagou aussi, parce que... il n'y a pas tellement longtemps, elle est venue dans, tout près de mon village, là, à Giverny, parler avec Orsena. Et c'est l'année passée, en fait. Et je la trouvais tellement, toujours tellement intelligente, fine, puis rapide, et puis pleine d'humour.
Merci, Yolande Moreau. Un grand merci d'avoir parlé ce soir sur France Inter d'Agnès Varda. Merci à vous. Merci à vous. On va poursuivre cet hommage, évidemment, en parlant de Jacques Demy, parce que c'est pas possible de parler d'Agnès Varda sans parler de Jacques Demy, l'homme de sa vie, mort en 90, son grand amour, à qui elle a consacré un film, Jaco de Nantes.
Il était une fois un garçon qui habitait dans un garage à Nantes. Sa mère aimait chanter.
La maman du petit homme lui dit un matin.
Son père aimait chanter.
Caroline, Caroline, mets tes petits souliers vernis.
Et lui aussi.
Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le Jacques. Maman, c'est chouette, il n'y a plus d'école, on est en vacances.
C'est à cause de la guerre.
Frédéric Bonneau, vous avez raison de me reprendre. C'est pas un film, c'est plusieurs films. C'est
oui, elle a consacré 3 films à Jacques Demy. Il y a eu 7 fictions qui est Jaco de Nantes et elle a consacré 2 documentaires. Il y en a un qui s'intitule L'univers de Jacques Demy et l'autre qui est vraiment sur Les Demoiselles de Rochefort, peut-être le chef-d'œuvre enchanté de Jacques Demy qui s'intitule Les Demoiselles ont eu 25 ans.
Et puis Laurent Delmas.
Et puis elle était sur les tournages des films de Jacques Demy et pas en tant qu'observatrice juste, elle photographiait notamment. Et puis quand on écoute la façon dont Stéphane Le Rouge, le biographe de Jacques Demy, raconte la première rencontre entre Demy Le Grand et Varda, où Varda a engueulé, mais littéralement Michel Le Grand, de ne pas accepter immédiatement de faire la musique d'un film de Jacques Demy, on voit bien que l'implication d'Agnès Varda dans le cinéma de Jacques Demy était extrêmement profonde et que c'est un couple de cinéma comme rarement l'histoire du cinéma en a raconté.
Mais quand vous allez leur maison, c'est assez extraordinaire parce que...
C'est physiquement donné.
Voilà, et elle dit d'ailleurs,
maison,
entre ici,
rue Daguerre
à Paris.
Et alors elle vous dit, c'est là que Michel Legrand et Jacques préparaient telle musique. Enfin, c'est l'âme de Demy est toujours là. C'est une chose assez extraordinaire, un couple de cinéastes, où les deux sont des cinéastes importants. Et pourtant, ils n'ont pas fait de film ensemble. Mais il y a une interaction par le fait qu'ils ont été contemporains, c'est un mot qui est extrêmement important, ils ont cheminé ensemble. Et elle disait, quand elle tournait, je crois, Cléo de 5 à 7, elle disait, moi, à ce moment-là, j'avais l'amour et le cinéma. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Donc, il y a aussi cette idée d'un bonheur, et même après, il y a les aléas de la vie, mais il est resté cette idée d'un bonheur.
Voilà, alors, avec Jacques Audenante, elle est repartie sur les traces de son enfance. On va être à présent en ligne avec notre confrère du journal Ouest France, Yves Aumont, qui est en direct de Nantes. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Alors vous allez nous parler de la façon dont s'est fait ce film. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire à travers ce film, Agnès Varda?
Vous parliez de Jacques Demy, c'est vrai que cette histoire d'amour, elle commence en 1960, pour tout dire. Parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'Agnès Varda est venue sur le tournage de Lola. Je crois que Rosalie, sa fille, était toute petite à l'époque. Elle est venue rejoindre Jacques Demy en toute liberté, quoi. Et puis elle est revenue au moment où le couple était un peu ensemble séparé, et elle est revenue pour tourner en avril 90, elle est venue pour tourner Jacques Audenante. Alors au départ, le film s'appelait Évocation d'une vocation, c'est-à-dire qu'elle voulait tourner la naissance du cinéma, comme la naissance du jour, elle voulait tourner quelque chose qui était comment naît un amour de cinéma. Alors c'est une promenade dans Nantes, de Nantes des tramways, c'est le passage Pommeret où le petit Jaco va acheter avec son mécano sa première caméra. Mais c'est surtout un film à la fois sur la nostalgie, et puis c'est un film où Jacques Demy est passé sur le tournage, il était déjà très fatigué, très malade, et c'est un film qui se termine aussi sur les plages d'Agnès et de Jacques Demy à Noirmoutier, où Jacques Demy est la seule et Agnès le regarde et la caméra s'éloigne. C'est un plan très très émouvant.
Ça veut dire qu'elle était, elle avait un rapport particulier à cette ouest de la France aussi.
Ah ben, il y a un rapport très particulier. Il y a donc ce rapport à Nantes, hein, pour Jacques Audenante. Et puis Nantes, c'était aussi la ville de bon, Agnès est venue de multiples fois présenter ses films au cinéma 14A ici, mais c'était aussi la ville de transit pour aller à Noirmoutier. On pourrait dire presque que Noirmoutier, c'était un peu, en hommage à Legrand, le moulin de leur cœur, parce que c'était le moulin de la famille Demy Varda, et là-bas, elle est retournée, ils se retrouvaient, c'était un peu un havre discret dans l'île de Noirmoutier, et elle s'est retrouvée là-bas pour tourner ensuite, et pour... D'abord, elle a tourné, il faut bien, je fais un peu des sauts en arrière, mais elle a tourné Les Créatures à Noirmoutier, il y a ça très très longtemps, et puis elle est revenue après pour tourner, alors qu'elle disait « maintenant je suis une vieille cinéaste, mais je m'en fiche, je suis une jeune plasticienne, puis je crois qu'il y a de l'avenir ». Elle est venue tourner là-bas un très beau film qui est une espèce d'autoportrait en kaléidoscope, à la fois distant et documentaire, qui s'appelle « Quelques veuves de Noirmoutier ». C'est le portrait de femme, sans rien, enfin des interrogations. Comment est-ce que vous vivez la solitude? Comment est-ce que vous vivez le manque d'amour? Il dormait où dans votre lit? À gauche ou à droite? Des questions comme ça, des questions simples, mais, et puis une espèce de film qui est un documentaire, j'allais dire, bon, plein d'exigences, mais plein de liberté, quoi.
Merci.
Un film d'artiste.
Merci beaucoup, Yves Aumont, critique cinéma au journal Ouest France. Hein. Un grand merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur France Inter. Eva Bétan, je vous voyais vouloir prendre la parole, là.
Il y a une chose qui est toujours étonnante chez les cinéastes. Par moments, on se dit, on n'est pas fait comme eux ou ils sont pas faits comme nous. Quand quelqu'un approche de sa fin, faire un film sur son enfance et après il disparaît, et dans les mois qui suivent, elle fait le montage du film, c'est-à-dire qu'elle voit les images où elle raconte sa vie alors qu'il a disparu. Il y a cet engagement dans le cinéma qui peut nous sembler à nous, entre guillemets, monstrueux, tellement c'est incroyable. Et il y a les larmes et il y a le film en même temps.
Et que vous disiez tout à l'heure, Laurent Delmas, qu'elle était capable de se fâcher à propos des chansons. Et bien, on va écouter maintenant un extrait du film Lola de Jacques Demy, une chanson qu'elle avait écrite, elle, les paroles en tout cas.
C'est moi, c'est Lola. Celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour c'est beau, celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager, les hommages des hommes âgés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi, celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là. C'est moi Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter, mais quand elle met le holà, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola.
Lola, oui.
C'est Jacqueline Dano qui chante. Oui, et c'est Anouk Aimée qui remue les lèvres. Mais ça, c'est un principe total chez Jacques Demy et repris par Agnès Varda. Enfin, en tout cas, pour cette chanson-là, elle a fait d'autres chansons dans sa vie et des jolies chansons.
Laurent Delmas qui nous consacre chaque été une émission à ses musiques de films. Agnès Varda donc, a fait des films, des documentaires, des longs-métrages, des courts-métrages. Moi, je vous propose d'écouter ce qu'elle disait dans cette masterclass, Frédéric Bonneau, qui a eu lieu à la Cinémathèque, à propos
elle
de...
Elle détestait ce mot.
De ses...
Non, mais elle ne vous en voulait pas, vous en voulez à moi.
En tout cas, écoutez ce qu'elle disait.
Cette conversation.
Elle se comparait à un fleuve.
On croit que j'ai fait beaucoup de films, mais on a calculé, il y a 65 ans que je travaille. Ça ne fait pas tellement de films, finalement. Il y a des cinéastes qui tournent un film par an. Regardez Woody Allen, un film par an. Chabrol, un film par an. Et ils travaillent bien. Ça, ils ont l'entraînement, ils n'arrêtent pas. Et moi, c'est comme ça tombe. Des fois, je restais 3 ans sans tourner, mais je faisais autre chose. Ou j'écrivais, ou je faisais des photos. Ou maintenant, je fais des fois des expositions. J'invente des trucs, des cabanes. Bon, je veux dire que je pense qu'il faut... La création, pour moi, c'est comme un fleuve. Alors, ça coule, ça s'arrête un peu, ça bloque. Il y a un peu des bouts de bois qui bloquent. Et puis sinon, ça coule. Enfin, j'ai pas du tout... Je suis pas déterminée, en fait. J'ai pas vraiment de projet.
Pas vraiment de projet, ben dites donc, pour quelqu'un qui en avait autant. On va revenir sur ces multiples projets, mais on va prendre d'abord en ligne avec nous Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. Bonsoir Gilles Jacob.
Bonsoir.
Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? J'ai pas fait tellement de films.
Oui, vous savez, Agnès voulait pas qu'on soit triste. Hein. Donc pour l'évoquer, j'ai envie d'employer des mots ensoleillés qui lui vont bien, comme saugrenu, prime sautière... Déambulation, rigolote, coxigrue, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout crâneur. C'est quelqu'un qui est une sorte de touche-à-tout en profondeur, parce qu'elle n'était pas photographe ni cinéaste au début, elle se lançait à l'eau. Mais elle avait une force de travail et une modestie et une attention aux gens simples aussi ou en marge extraordinaire. Moi, je crois que ce qui fait beaucoup son style, c'est le ton si personnel de la voix off de ses autodocuments, où elle est à la fois le peintre Millet, le photographe de Gérard Philippe et la romancière qui commente sa propre vie. Elle avait une franchise très très forte. Elle n'y allait pas par 4 chemins quand elle n'était pas contente. Moi je me rappelle, par exemple pour le prix Rossellini, où il y avait tous les grands cinéastes français et italiens qu'on donnait à Cannes, à la fin il fallait faire un communiqué, eh bien elle pouvait rester une demi-heure sur une virgule. Et il n'était pas question de lui dire les télés attendent, les radios attendent, il faut y aller. Non, non, non. Il faut que ça soit précis. La conférence de presse qu'elle donnait, elle arrivait avec son petit sac, son petit panier de cerises qu'elle mettait sur la table, on piochait dedans et puis on parlait tranquillement entre soi. Le CNC, si par avis de mauvaise humeur... pas la mettre à la porte, mais enfin, de toute façon, elle serait rentrée par la fenêtre. Elle est arrivée avec sa petite touche d'imprévu, sa chevelure bicolore, ses boucles d'oreilles qui tressautaient, les longues jupes sur courte silhouette, et l'œil malicieux, scrutateur, sous le regard duquel on se sentait un moucheron.
Elle avait du caractère, la dame, on va dire.
Ah, elle avait un caractère absolument formidable. Je n'ai jamais vu se démonter. Parce qu'elle avait toujours un coup d'avance sur les autres.
Frédéric Bonneau.
Non seulement Gilles le sait bien, elle avait du caractère, mais c'était quelqu'un qui, comme tous les grands artistes, parce qu'il n'y a pas d'art, sinon à ce prix, pouvait être aussi d'un égoïsme de fer. Et elle avait bien raison, parce que ce qui passait avant tout pour elle, effectivement sans arrogance, là aussi Gilles a raison, mais quand même c'était ce qu'elle voulait faire. C'était la conception de son œuvre. Ce n'est pas quelqu'un à qui on pouvait passer une commande. Personne n'aurait dit à Agnès Varda, tiens, tu veux pas faire un film policier ou tu veux pas faire un film comme ça. Non, elle ne savait faire que des films d'Agnès Varda et elle savait imposé son rythme, non seulement à elle-même, mais aux gens qui travaillaient avec elle. C'est-à-dire qu'elle, évidemment, elle était attention aux autres et empathie, elle était appétit des autres, mais elle n'était pas qu'altruisme. Parce qu'évidemment, il faut qu'un créateur, pour faire son œuvre, ait aussi une part de volonté, d'une ténacité, surtout dans le monde économique du cinéma, et elle avait cette volonté et cette ténacité.
Vous êtes d'accord, Gilles Jacob ?
Tout à fait. Je trouve qu'elle a eu l'intelligence de prendre un tournant dans son œuvre, s'apercevant que finalement, elle ne toucherait pas forcément le grand public, et tout d'un coup, elle a rebasculé sur des choses qu'elle avait faites en Amérique, comme Murmure ou des documentaires, et elle a trouvé son style propre à partir du moment... je dirais dans l'année 2000, quand elle a fait La Glaneuse, Les Plages d'Agnès, Visage Village, toute cette dernière partie de sa vie est magnifique.
Eva Bétan.
Oui, Gilles Jacob, il y a une chose qui est extraordinaire, effectivement, c'est qu'on n'a pas vu chez elle ce qu'on a pu voir chez des grands d'autres grands cinéastes, où avec l'âge, c'est moins bien. Et on est un peu embêté de voir que c'est moins bien. Elle, c'est l'inverse, on dirait que ça se bonifie avec le temps. C'est très rare, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est très rare.
Il y a quelques grands metteurs en scène, par exemple, John Huston, vers la fin de sa vie, a fait des films magnifiques.
Dubliners, Les Gens de Dublin.
Des gens comme ça. Mais c'est vrai qu'Agnès, tout d'un coup, il y a eu une espèce de révélation, un peu comme Cavalier d'ailleurs, c'est l'accession à la liberté. C'est-à-dire qu'il comprenait qu'avec peu d'argent, avec 4 sous, avec 2 bouts de ficelle, ils arriveraient, par leur talent, par leur art, par leur génie, à faire des films qui touchent tout le monde.
1000 fois merci Gilles Jacob d'avoir réagi ce soir sur l'antenne de France Inter. Alors vous l'avez tous dit, visiblement la vieillesse ne lui faisait pas peur du tout, Agnès Varda. Elle disait, mais qu'est-ce que vous avez tous à avoir de la peine quand les gens vieillissent? Elle s'entourait de jeunes, elle était avide de nouvelles expériences. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, Frédéric Bonneau, sa collaboration avec l'artiste J.R. On va l'écouter, c'était dans l'émission Stupéfiant.
Elle est incontournable parce qu'elle a créé la nouvelle vague et elle l'a fait même avant d'autres grands cinéastes. Elle était complètement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on regarde ses films de l'époque, elle utilisait des émoticônes par exemple, à un moment on ne savait même pas encore les utiliser par texto. Elle a été avant-garde sur tellement de choses. Elle est passionnée des gens, des rencontres, c'est quelqu'un, et je pense que c'était un secret ça, pour comment rester jeune toute sa vie, c'est d'être curieux des autres.
C'est vrai que le duo était improbable, Laurent Delmas.
Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait aussi capter le temps qui passe. Et c'est pour ça que ça en fait une cinéaste aussi immense à nos yeux. C'est-à-dire que quand elle fait des films sur la rue de la guerre, quand elle fait des films sur la rue Mouffetard, qui est joliment appelée l'opéra Mouffe, les choses comme ça, elle, ou les glaneurs et la glaneuse, elle capte ce qui va disparaître, ce qui est en train de disparaître, en actant que finalement la seule chose au monde qui peut ne pas les faire disparaître, c'est précisément le cinéma, et c'est précisément elle avec son cinéma. Donc cette claire conscience que finalement son rôle, son but, c'est d'essayer de faire survivre des choses qui vont disparaître, comme dans le film avec J.R. où on voit que la mère finalement fait disparaître un immense poster affiché sur un bunker. Ce genre d'images-là, elles appartiennent vraiment à l'univers d'Agnès Varda.
Elle était très forte pour les dispositifs. C'est un mot qu'on emploie, par exemple J.R. pour l'art contemporain ou la photographie, moins pour le cinéma ou l'art vidéo. Elle était très forte pour les dispositifs. C'est-à-dire qu'elle avait la conception des choses, elle savait parfaitement que si on veut qu'une représentation tienne debout, et elle disait, pour moi la représentation est délectable, parce que la représentation lui permettait de comprendre le monde, comme à nous spectateurs, et de se comprendre elle-même, mais si on veut que la représentation tienne debout, il faut qu'elle ait été parfaitement conçue, et donc elle était très forte pour inventer, Laurent le dit très bien, des dispositifs, et par exemple son dernier film avec J.R., Village Visage, c'est exactement ça, c'est je m'allie avec un jeune photographe contemporain, et de cette alliance va naître un regard sur le monde, un regard sur la France, un nouveau voyage en France de 2 personnes, à part que là c'est pas 2 enfants, c'est pas le voyage en France de 2 enfants, c'est une vieille dame et un artiste, disons d'une 40-50 d'années, et ils vont regarder la France, et donc le dispositif est déjà dans cette rencontre. C'est ça qui fait l'écriture d'Agnès Varda. C'était une cinéaste et une plasticienne, il faut quand même le dire, d'une intelligence folle.
La base de Eva tout, Bétan. C'est d'abord une artiste incroyablement douée. Mais une chose qui est très frappante, c'est que c'est quelqu'un. Souvent, les gens tout d'un coup se rendent compte qu'ils sont dépassés par l'époque et qu'ils ne la comprennent pas. Elle ne s'est jamais trouvée dans cette situation. Elle a toujours été synchrone avec l'époque à laquelle il était. C'était pas une vieille baba cool au moment où c'est plus le truc. C'était pas. Non, elle est toujours synchrone avec l'époque. Et même, elle est en avance. On recite Saint-Antoine Nilois, la glaneur et la telle. Elle est en avance sur le regard qu'on porte sur les SDF, sur le gaspillage, sur qu'est-ce que c'est que survivre, sur une forme d'indécence qui fait qu'on peut que ça peut exister dans nos sociétés, sans prêchi prêcha. Donc elle est synchrone avec le temps.
Et elle s'est surtout jamais arrêtée de travailler.
Jamais arrêtée d'organiser les choses, jamais même arrêtée, même si c'est difficile à dire aujourd'hui. Pardon, je suis un peu bouleversé parce que je sais que je vais plus voir Agnès, donc ça me fait très bizarre. C'était une amie de 25 ans, mais elle a organisé aussi sa disparition et ses adieux, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on a organisé, nous, à la Cinémathèque française, une rétrospective intégrale de ses films au mois de janvier. Pendant ce temps-là, elle terminait ses deux derniers documentaires pour Arte. Elle est allée les présenter au Festival de Berlin, où elle a reçu un prix. Là, elle s'est consacrée à ses amis, elle a cessé de donner des interviews, alors qu'évidemment, comme c'était une très bonne cliente et que tout le monde le savait, on lui en demandait constamment. Demain, à Chaumont-sur-Loire, elle aurait dû vernir une nouvelle installation vidéo, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé et qui a travaillé à organiser sa vie autour de son art jusqu'au dernier souffle et avec un talent qui, pour le coup, n'appartenait qu'à elle.
Ça, c'est du grand art aussi. Alors, on est en ligne à présent avec Masha Makaïev qui avait prévu et qui a toujours prévu de lui consacrer une partie d'une exposition l'été prochain à Avignon. Bonsoir, Masha Makaïev.
Bonsoir.
Vous nous confirmez qu'Agnès Varda était toujours sur le pont?
Agnès Varda, c'est quelqu'un qui est entré dans votre atelier, qui s'asseyait dans un coin et qui vous disait des choses qui devenaient des secrets de fabrique pour toute une vie. C'est quelqu'un qui était d'une générosité folle, qui montait des trois étages à la criée pour arriver dans la fabrique et regarder les objets qui s'y trouvaient. Et puis on regardait ensemble dans le silence les objets. Et on parlait de l'immobilité, de la presque immobilité, du cinéma, du théâtre. Et c'était toujours quelque chose qu'elle vous confiait. Et je n'ai pas eu une seule fois un moment avec elle sans avoir été enrichie de quelque chose dit discrètement, délicatement, et qui engageait une partie de la vie artistique à chaque fois. C'était jamais dans la vie ordinaire. C'était toujours, probablement parce que le temps était précieux, le sentiment que l'instant partagé l'était aussi. Voilà, donc c'est...
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'exposition qui aura lieu cet été, baptisée Trouble Fête?
Oui, Trouble Fête, c'est dans la maison Jean Villard. Et voilà, j'ai déjà dessiné les espaces et il y a au fond d'un... Au bout d'un couloir perspective, ce que j'allais lui raconter, le KGB à Agnès. Et voilà, c'est une espèce de renfoncement avec des objets, des choses qui est, voilà, et je rêvais qu'elle vienne le voir. Je lui avais envoyé un mail dans ce sens-là. Bon, moi maintenant, au-delà de la tristesse infinie, je m'accommode très bien des fantômes et je sais qu'elle sera là et que
l'hommage aura lieu.
Oui, l'hommage joyeux, parce qu'Agnès, c'était tout sauf la tristesse. Agnès m'a même secoué quelquefois en me disant, hey, la mélancolie, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut. Là, à cet endroit, il faut le rayonnement, il faut, voilà. Donc, le KGB d'Agnès sera au bout d'un long couloir, d'une longue perspective et elle traversera.
Merci, Masha Makaïev.
Traversera l'exposition.
Merci beaucoup, ce sera cet été. Merci d'être intervenu sur France Inter. Je voudrais qu'on termine en prenant en ligne Laure Adler qui va rediffuser ce soir L'Heure Bleue, émission diffusée il y a 3 semaines seulement sur notre antenne avec une partie inédite. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait en ligne. Un dernier tour de... Elle est en ligne. Bonsoir Laure Adler.
Bonsoir.
L'Heure Bleue avec Agnès Varda, donc ce soir, avec rediffusion d'une partie de l'émission du 8 mars dernier, mais pas seulement, je crois.
Pas seulement, parce que j'ai décidé de diffuser un entretien que j'avais eu avec Agnès Varda au moment la sortie du film avec JR, Visage Village, que je n'avais jamais diffusé. Et en fait, voilà, maintenant la parole d'Agnès, on a envie de l'entendre. On a beaucoup de mal à comprendre qu'elle n'est plus là dans ce monde. La voix ceci d'incroyable, c'est qu'elle permet de restituer un engagement, un itinéraire, une profondeur. Agnès Varda parlait comme elle filmait, avec beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de frontalité. Elle disait toujours la vérité, sa vérité. Et comme elle s'intéressait aux plus humbles, aux plus humiliés, à ceux qui bricolent leur vie mais qui savent en faire un art, on a pensé que dans leur bleu, il fallait faire écouter sa voix.
Eh bien, on sera à l'écoute ce soir. Merci beaucoup, Laure Adler. Ce sera donc après le flash de 20h. Merci à vous et à tout à l'heure. Un dernier mot, peut-être, Frédéric Bonneau.
Oui, ce matin, je suis allé rue Daguerre, je ne sais pas, vers midi. Et ça, je ne sais pas si c'est déjà arrivé pour un cinéaste ou une cinéaste. Il y avait des gens. C'est-à-dire que la maison d'Agnès est connue de tous. Et donc... j'ai sonné, Mathieu Demy, son fils, m'a ouvert. Et à ce moment-là, il y avait une maman et son fils qui déposaient une rose. Et les gens, comme ça, ont dû affluer toute la journée devant sa maison. Et c'est pas un acteur, hein, c'est pas un chanteur. Donc ça n'arrive pas souvent chez les cinéastes. Donc voilà, ça aussi, c'était Agnès. Et je pense que ça lui aurait beaucoup plu.
Laurent Delmas.
Je vous livre la dernière image que j'ai d'Agnès Varda. Elle est dans sa cour, toute l'équipe de technique d'Inter l'entoure, on s'en va. Et cette vieille dame formidablement indigne nous lance « Considérez-vous comme embrassée ». Voilà, nous sommes embrassés ce soir.
Et le mot de la fin, il sera pour vous, Eva Bétan.
Elle n'était pas mélo du tout, donc je ne veux pas être mélo. Mais elle fait partie des gens, c'est une phrase de Truffaut qui disait « Il y a des films qui aident à vivre » et je crois qu'on peut dire « Il y a des cinéastes qui aident à vivre ».
Allez, Frédéric Bonneau, vous avez
Mathieu
un peu...
Mathieu Demy, Rosalie Varda m'ont juste demandé de dire, parce que comme ça sera une bonne fois, que Agnès sera enterrée aux côtés de Jacques Demy. Elle avait demandé à la mairie de Paris de lui mettre un banc pour veiller sur la tombe de Jacques Demy. Donc elle va être enterrée à côté de lui au cimetière du Montparnasse. Ça sera mardi à 14h et juste avant, à 11h, eh bien, on fera un hommage à la Cinémathèque, évidemment, ouvert à tous. La maison risque d'exploser, mais là aussi, elle aurait été contente.
Et puis, il y aura certainement aussi d'autres hommages et on aura l'occasion d'en reparler. Je précise que, évidemment, sur France Inter, on va poursuivre Laurent Delmas.
Demain matin, émission à 10h, spéciale. On aura une émission spéciale, hein, évidemment, oui.
Et demain puis Vincent matin, Joss, au programme de votre émission, peut-être.
Mais beaucoup de diffusions, de rediffusions, d'entretiens qu'on a eu avec Agnès Varda. Et puis, la présence de la jeune cinéaste Claire Burger, qui rendra aussi un hommage à Agnès.
Merci Laurent Delmas, merci Eva Bétan, merci beaucoup Frédéric Bonneau d'être venu ce soir sur France Inter. Dimanche, vous le disiez Laurent Delmas, un grand atelier spécial donc avec Vincent Josse. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Irène Menahem, à la réalisation ce soir Marie-Annie Crimbaud, à la programmation musicale Djoubaka. Vendredi prochain, retour d'une semaine en France. À 19h20, tout à l'heure, le téléphone sonne sera consacré au grand débat national dont les premières restitutions auront lieu dans quelques jours.